Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Sous le titre « Récits de voyage en basse marche », nous allons utiliser quelques-unes des lettres d'Henri-Alexandre Flour de Saint-Genis. Nous le ferons essentiellement à partir de l'ouvrage « Lettres sur le Limousin » publié par les Ardents éditeurs de Limoges.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
En 1852, Henri-Alexandre Flour de Saint-Genis s'installe, avec son épouse, au 11 de la rue des Quatre Chemins à Limoges, dans la demeure bourgeoise d'Auguste Tarnot. Il vient d'être nommé directeur de l'enregistrement dans la capitale limousine. Très vite, il sera admis membre résident de la Société archéologique et historique du Limousin. Arrivé en Limousin en 1852, il quittera notre région en 1861 pour devenir le directeur de l'enregistrement de Valence. Pendant ces 9 années, il va sillonner notre département, cette région centrale que l'on traverse sans jamais s'y arrêter, et lui va s'arrêter, y compris dans les plus petits villages. Il va raconter ses voyages, ses rencontres, ses découvertes à travers 64 lettres adressées à son médecin parisien. Ces lettres sur le Limousin ont été publiées d'abord dans le journal le 20 décembre, entre février 1857 et novembre 1859. Les Ardents éditeurs de Limoges en ont assuré la publication en un seul volume. Nous allons puiser dans cet ouvrage en nous intéressant aux voyages dans les plus petites communes de la basse marche que notre narrateur réalisera à partir de Bellac, où il réside à l'hôtellerie dès février 1857. Nous allons quitter Bellac, nous consacrerons plus tard une émission de balade dans les rues de Bellac.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons donc quitter Bellac et d'abord nous rendre à Blon. Blon, B-L-O-N ou B-L-O-N-D. 9 km au sud de Bellac, 34 de Limoges, sur le revers septentrional de la chaîne des montagnes qui sépare le bassin de la Gartempe de celui de la Vienne. 1811 habitants en 1806, 2447 en 1856, entre parenthèses, 716 aujourd'hui. Terrain fertile, arrosé par le Vincoux et plusieurs ruisseaux, 15 étangs, 2 chemins de grande communication. On y trouve, au hameau des Ramades, la trace d'une voie romaine. Ce village de Blon, ou plutôt ce bourg, me parut si heureusement situé. L'exercice et le grand air avaient si bien développé ce besoin de réparation qui prend nom « appétit » que nous fîmes halte dans une hôtellerie d'apparence modeste, mais qui tenait plus qu'elle ne semblait promettre. Ce bourg possède un instituteur primaire, une école de jeunes filles dirigée par les sœurs de l'ordre de Lyon, un officier de santé et une sage-femme. Sans industrie proprement dite, le pays est néanmoins dans l'aisance grâce à ses produits agricoles qui pourraient être de beaucoup améliorés si l'on y appliquait les bienfaits du drainage. Les montagnes de Blon renferment de nombreuses carrières. Ce serait même, d'après les chroniques du pays, de la partie située entre Blon et Mortemart qu'auraient été extraits les matériaux qui servirent sous le peuple roi à construire les arènes. Ce petit bourg a ses illustrations. Ainsi, en l'an 1160, Guy de Blon, noble seigneur, qui avait fait le pèlerinage de la Terre Sainte, porta de Jérusalem de précieuses reliques qu'il envoya à l'église de Saint-Julien. Guillaume Benassi, docteur de Sorbonne, professeur de théologie à Paris, mort en 1644 au couvent de Mortemart dont il était prieur, était né à Blon.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Nous allons quitter Blon et sa montagne pour rejoindre la Gartempe à Peyrat-de-Bellac. Peyrat, à 3 km ouest de Bellac, à 44 km de Limoges, dans une charmante situation au confluent de la Gartempe et du Vincoux. Population 992 habitants en 1806, 1406 en 1856 et 1117 aujourd'hui. Ce joli village est un de ceux qui ont le plus progressé et il a dû être beaucoup plus important encore. On y voyait autrefois, me dit mon guide, un temple octogone semblable à celui de Montmorillon. C'était alors une chapelle dédiée à Saint Martial. Aujourd'hui, la mousse et les pariétaires en ont couvert les derniers vestiges. Mais Monsieur Arbelot ne partage pas cette opinion. Il pense que le prétendu temple octogone n'est autre qu'une chapelle du Moyen-Âge. Notre voyageur passe assez peu de temps à Blanzac, dont il nous dit pourtant que le bourg est dans la plus gracieuse position, sur un plateau dépendant d'un bassin de la Gartempe, enclavé entre cette dernière et la Basine, un affluent du Vincoux. Population 598 habitants en 1806, 723 en 1856 et 521 aujourd'hui. Il ajoute « sol granitique, fertile » et bien boisé. Il est plus prolixe à propos de la commune de Saint-Junien-les-Combes. 8 km au sud-est de Bellac, 35 km de Limoges, entre la Gartempe et le Vincoux. Terrain fertile, arrosé par la Basine, bois dit de Saint-Martial et de Sana. Tuileries, pressoirs, commerce de bétail assez important. Population de 487 individus en 1806 et 589 seulement en 1856. En 50 ans, alors que la population de Limoges a doublé, que l'on y songe. Et Henri-Alexandre Flour de Saint-Genis de se lancer dans de grandes réflexions philosophiques sur l'évolution de nos campagnes. Je faisais ces tristes et amères réflexions en parcourant ces riches et belles campagnes. Des bruyères, des bouquets de bois, de riantes prairies, de rares troupeaux, de pauvres bergères filant à leurs quenouilles, et à leurs pieds, un maigre chien au poil rude et fauve, point de grange, et çà et là, quelques rares chaumières. Il ajoute, à propos de Saint-Junien-les-Combes, « La nuit était tout à fait venue quand mon guide, brusquement arrêté, me dit « N'y a-t-il plus rien ?» Je lui tendis ma gourde, joli petit meuble en argent ciselé. Il but une ample rasade, puis, s'essuyant les lèvres de sa large main, il me dit « Voici Sana, là-haut, sur la hauteur. C'est monsieur le marquis de Roffignac qui l'a fait construire avant la Révolution. Il y avait là, il y a bien des années, un vieux castel entouré de fossés, avec des bastions, des tourelles, des machicoulis, des oubliettes, que sais-je encore, pour opprimer le pauvre monde. »
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Saint-Bonnet-de-Bellac sera une étape importante dans les visites de notre directeur de l'enregistrement. À 10 km au nord-ouest de Bellac, 49 km de Limoges, sur la rive gauche de la Gartempe, position agréable, terrain fertile et bien cultivé, traversé par la route de Limoges à Poitiers. 1229 habitants en 1806, 1653 en 1856 et 504 aujourd'hui. Dans cette commune se trouve la forêt des coutumes, essence de chêne. L'agriculture y est bien entendu, toutefois il m'a semblé que les cours d'eau pourraient être mieux aménagés. Le bourg enferme quelques industries, ainsi 4 moulins à blé, 4 pressoirs, plusieurs charrons, forgerons et sabotiers, et c'est aussi la résidence d'un notaire. Mais ce qui a le plus intéressé notre voyageur, c'est le château et la propriété de Montagrier. Écoutons Flour de Saint-Genis. C'est dans cette commune, à une faible distance au nord du village, que se trouve la belle propriété de Montagrier, appartenant à la famille de Montbron. L'habitation, de construction moderne et élégante, a été élevée sur les ruines d'un vieux château dont l'origine n'a pu être indiquée. La vue domine au loin le cours sinueux de la Gartempe et les vallées gracieuses qui vont vers le Poitou, se perdant dans un horizon vaporeux. Le château est entouré d'un très beau parc fort bien dessiné, des arbustes étrangers, des plantes exotiques, des oiseaux rares aux brillants plumages, des cerfs et des biches bondissant en toute liberté, des lions majestueux rugissant dans leurs cellules, des cerfs, des volières, des châtels, faisaient de Montagrier le séjour le plus pittoresque et le plus curieux. Monsieur le comte de Montbron, ancien député, littérateur et botaniste distingué, mort en 1852, avait surtout contribué à l'embellissement de cette résidence. C'est à lui que l'on doit l'introduction en France de l'alpaga d'Amérique et l'acclimatation de l'araucaria du Pérou. Il ajoute encore à propos de Saint-Bonnet de Bellac, c'est dans la commune que se trouvait le château de Bagnac, qui a vu naître le cardinal de ce nom. Ce prélat, neveu par sa mère du cardinal Pierre de Mortemart, fut revêtu de la pourpre romaine en 1368 par le pape Urbain V. Il mourut à Viterbe en 1369 et son corps fut transporté à Mortemart, où l'on voyait son tombeau dans l'église des Augustins.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons quitter l'ancien canton de Bellac pour nous rendre dans celui du Dorat. Et nous voici à la Bazeuge. 4 km du Dorat, 16 de Bellac, 54 de Limoges, sur la rive droite de la Brame, à une faible distance de la route de Montmorillon. 432 habitants en 1806, 512 en 1856 et 133 aujourd'hui. Quelques ruisseaux et plusieurs étangs. Traversé par le chemin vicinal du Dorat au Blanc, le cours de la Brame présente des accidents de terrain du plus pittoresque effet. Et là, vous allez entendre notre voyageur se fait philosophe. Qui de nous se retrouvant au fond des bois, dans un pli de terrain, une petite maison cachée aux regards indiscrets et malveillants des hommes, ne s'est point dit « Arrêtons-nous là ». Cachons-y notre vie, le bonheur doit y être. Hélas, le bonheur n'est nulle part quand il n'est point en nous. Et bien vite, nous revenons à des choses bien plus terre à terre. Cette commune est pauvre, sans industrie. L'agriculture en est au rudiment. Mon guide me disait, en me montrant les grandes landes et bruyères, pourquoi ne pas ouvrir des routes là-dedans ? Pourquoi ne pas vendre ce qui ne produit rien ? Car c'est à tout le monde et à personne. C'est à la Bazeuge qu'est né saint Théobald, diacre du Dorat, mort en 1070. Alors peut-être serons-nous plus chanceux avec la croix sur Gartempe, 11 km du Dorat, 7 de Bellac, 48 de Limoges, délicieuse position sur la rive droite de la Gartempe à l'embouchure du Vincou. 785 habitants en 1806, 896 en 1856 et 188 aujourd'hui. Carrière de granit, point de grandes voies de communication, les chemins vicinaux sont en mauvais état. Il se fait cependant, dans cette commune de La Croix-sur-Gartempe, un commerce assez important de bestiaux. Nous sommes un peu déçus, Flour de Saint-Genis ne nous parle pas de la culture de la vigne à La Croix-sur-Gartempe. Laissons La Croix-sur-Gartempe et transportons-nous à Darnac.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Darnac, 11 km du Dora, 15 de Bellac, 57 de Limoges, rive droite de la Gartempe, jolie position. 2029 habitants en 1806. 2246 en 1856. Et 387 aujourd'hui. Cette commune importante est éparpillée et ne compte guère que 200 habitants dont les demeures soient agglomérées. Traversée par la route impériale de Clermont à Saintes, à laquelle elle se relie par une route communale. Carrière de granit, deux écoles, un notaire, agriculture assez bien entendue, commerce de bestiaux. Les routes, surtout de vicinalité, ce sont les routes qui relient les chefs-lieux de communes entre eux, m'ont paru en fort mauvais état. L'irrigation est mal entretenue. Un site a particulièrement retenu l'attention de notre voyageur. Nous avons visité la belle cascade du Saut de Bran à son confluent, nous dirions aujourd'hui à sa confluence, avec la Gartempe. Le temps m'a fait défaut pour visiter sur les bords de la Brame les vastes ruines de la Perrière et plus loin celles de la Côte aux Chats, ayant appartenu autrefois à la famille de Lusignan. Darnac, ajoute notre voyageur à sa mention dans l'histoire. L'information provient des mémoires de Pierre Robert, le lieutenant général de la Sénéchaussée de Basse-Marche. Le roi Louis XIII passa à Limoges vers la Toussaint en 1632, puis au bourg de Darnac. Je lui fis une harangue en pleine campagne. Nous le trouvâmes dans un petit carrosse qui avait un fouet à la main et le menait tout seul. Il n'y avait que lui dans le dit carrosse. Et quand il fut près de Darnac, il monta à cheval et avait un manteau écarlate. Ma harangue finie, il eut grand-peine à nous dire « Tenez-moi cela et je vous serai bon roi. » Car il ne pouvait parler qu'avec grand-peine. Mais il avait un fort bon jugement et était adroit à toutes sortes d'exercices. D'après mon guide, auquel je laisse toute la responsabilité de la chose, la fête patronale de Darnac est celle de Saint-Jean-Baptiste qui, ce jour-là, guérit tous les maux qui peuvent affliger notre misérable nature. À cette fin, il suffit de jeter sur la statue une pelote de laine de manière à ce qu'elle frappe la statue à la partie correspondant à la partie malade. Il est vrai, ajoutait-il avec un faux air bonhomme, que pour que le miracle opère, il faut encore que le patient soit adroit et croyant.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons rester dans l'ancien canton du Dora, de Saint-Ouen-sur-Gartempe, nous irons à Saint-Sornin-la-Marche, puis à Tersanne et à Verneuil-Moutier. Saint-Ouen d'abord, 7 km du Dora, 6 de Bellac, 45 de Limoges, sur un plateau dominant le cours de la Gartempe. 584 habitants en 1856 et 222 aujourd'hui. Le chef-lieu était autrefois à Mounimes. Les deux communes ont été réunies. Toutefois, il est un curé à Mounimes dont la population était en 1806 de 514 habitants. Saint-Sornin-la-Marche, 9 km du Dora, 10 de Bellac, 51 de Limoges. 878 habitants en 1806, 1036 en 1856 et 269 aujourd'hui. Carrière de Moellon. nombreuses émigrations de maçons pour Bordeaux, Saintes et La Rochelle. Cette commune manque de routes et de bras. À quelque distance du village, mon compagnon me fait remarquer une jolie habitation connue sous le nom de Sarayac, appartenant, dit-on, à la famille de Pertras. Nous allons maintenant nous rendre sur les bords de l'Asse, à Tersanne. 11 kilomètres du Dorat, 24 de Bellac, 60 de Limoges. Rive gauche de l'Asse, non loin de la route de Montmorillon et de celle de Lussac-les-Églises. 349 habitants en 1806, 452 en 1852 et 140 aujourd'hui. Cette commune n'a pas de curé, elle est desservie par celui de Labazeuge. L'agriculture réclame le drainage, la chaux et les routes communales. Un peu avant d'arriver au village, on trouve la Brunetterie, jolie résidence que mon guide me dit appartenir à la famille Étourneau, à laquelle appartenait aussi le château de Tersanne, dont la chapelle sert aujourd'hui d'église au village. Sur la porte de cette église, un arc en plein cintre encadre un linteau triangulaire portant cette inscription « Pierre les a faites ». Monsieur Arbello demande dans son guide des voyageurs si ce ne serait point là l'architecte de l'église. Dans le parc de la Brunetterie se trouve un chêne, roi des forêts, de 36 pieds de circonférence et couvrant de son ombrage un espace de 50 mètres.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Pour aujourd'hui, nous allons terminer notre voyage en basse marche par une commune du nord du département, Verneuil-Moutier. 17 kilomètres du Dorat, 29 de Bellac, 66 de Limoges, presque à la limite extrême du département, sur les bords du ruisseau de l'Asse. 384 habitants en 1806, 479 en 1846, 132 aujourd'hui. Sol froid et sablonneux, peu de voies de communication, point d'industrie, culture médiocre, quelques commerces de bestiaux. Il y a un dépôt de sulfate de quinine pour les indigents. Non loin du méchant chemin que nous parcourons se trouve la tour aux Paulmes, appartenant à la famille Richard de la Tour de Darnac. Et notre voyageur écrivain d'ajouter « À demain, cher maître ».
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Vous le voyez, notre Henri-Alexandre Flour de Saint-Genis visite nos plus petites communes. Alors certes, il est souvent critique sur les retards de notre agriculture locale, sur l'absence de drainage ou de chaulage, sur une mauvaise utilisation de nos rivières et ruisseaux, mais vous l'avez entendu, ce qu'il critique le plus, ce sont nos routes qui sont souvent dans un état déplorable. Nous n'avons pas terminé nos visites, nos voyages avec Flour de Saint-Genis. Nous laisserons pour l'instant les gros bourgs comme Bellac et le Dorat, que nous traiterons à part, mais nous irons aussi à Azalry, à Oradour-Saint-Genès, à Magnac-Laval, à Droux, à Saint-Hilaire-la-Treille, à Saint-Léger-Magnézé et à Villefavard. Ce sera l'objet d'une autre émission dans quelques mois. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à un récit de voyage en basse marche. Nous l'avons fait à partir de l'ouvrage d'Henri-Alexandre Flour de Saint-Genis, Lettres sur le Limousin. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à la flûtiste Michala Petri, aux harpistes Camille et Kennerley et Natalia Antonova, au groupe Maluzerne et Stingo Music. Nous écoutons en ce moment Greensleeves avec Jordi Savall, mais nous avions commencé avec ce même morceau du XVIe siècle en version guitare. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.